Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est très heureux d'être avec vous tous les jours, du lundi au vendredi, jusqu'à 15h. Et on est avec vous aujourd'hui en compagnie de Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Mais j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que vous n'avez pas vu.
Non, ça fait 990 ans seulement.
Oui, ça m'a paru long sans vous.
Bah, c'est gentil.
Daniel Riolo est là aussi, ça va Daniel?
Salut Estelle, ça va? Je vais essayer de faire une seule émission cette semaine et pas de la traîner toute la semaine ensuite.
Oui, bah écoute, on va pas parler des prisons, ça devrait aller mieux.
Ah bah non, on peut sur n'importe quel sujet.
Oui, c'est vrai,
vous êtes capable. À partir du moment où on fait de la phrase hors contexte, on peut traîner ça pendant une semaine.
Bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, on verra si vous ferez des phrases hors contexte sur tous les sujets qu'on vous proposera dans un instant.
Non, c'est pas moi qui les fais, c'est ceux qui les reprennent.
Oui,
c'est
moi aussi.
Les phrases, bah, potentiellement.
On n'est pas obligé de vous énerver également. Enfin, on verra. Face à vous, il y a Emmanuel Dancourt, notre journaliste indépendante de Dijon. Ça va, Emmanuel?
Bah ça va, j'ai passé la même semaine que Daniel, moi. On était ensemble sur le même sujet, on était repris un peu partout. Non, ça va très bien, merci.
Et puis, le chef du service culture de Valeurs Actuelles, Laurent Dandrieux. Salut Laurent.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Allez, au sommaire aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, et Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, mis en examen. Doivent-ils quitter leur fonction? On vous attend là-dessus au 32-16 ou sur l'application RMC, rubrique direct studio. Midi et demi, Elisabeth Borne qui annonce une aide financière pour les Français qui accueillent des Ukrainiens. Bonne ou mauvaise idée? À 13h, des maires de tous bords qui réclament la légalisation du cannabis pour éradiquer la violence et les trafics. Vous êtes pour, vous êtes contre, en tout cas, vous nous donnez votre avis. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera des réservations ouvertes pour les trains SNCF pour Noël et on nous expliquera pourquoi on n'arrive jamais à prendre ces billets qui sont moins chers. Enfin, personne ne les a jamais, c'est quand même hallucinant. Et puis à 14h, la Belgique qui réforme son droit du travail, flexibilité, déconnexion, semaine de 4 jours. Faut-il faire la même chose en France? Ça, ce sera à 14h.
RMC Estelle Midi.
Et on va commencer tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est l'Élysée dans la tourmente après les mises en examen d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, et d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, pour prise illégale d'intérêt. Emmanuel Macron les a confortés dans leurs fonctions, mais ce matin, Marine Le Pen les a appelés au départ. Elle était l'invitée d'Apolline de Malherbe.
C'est la responsabilité d'Emmanuel Macron, si je puis me permettre. Est-ce qu'il veut garder à ses côtés, à un poste aussi sensible, quelqu'un qui est en tout cas suspecté, qui bénéficie de la présomption d'innocence, hein, comme chacun, mais qui est suspecté de fait de conflit d'intérêts ou non?
Et Éric Dupond-Moretti, mis en examen aussi.
Bah alors c'est pareil,
ministre de la Justice.
C'est pareil, le problème c'est un problème d'image de la justice. Voilà, il est ministre de la Justice, il n'est pas ministre du Tourisme, hein, il est ministre de la Justice. Le ministre de la Justice est mis en examen devant la Cour de Justice. Enfin, vous comprenez que les Français vont finir par, de ce fait, avoir une suspicion. Donc encore une fois, si Emmanuel Macron tient énormément à M. Dupond-Moretti, il n'a qu'à le changer de ministère.
La pression s'accentue sur Alexis Kohler et Éric Dupond-Moretti, même si le ministre de la Justice l'a dit ce matin, il ne démissionnera pas.
Exactement, et d'autres voix s'élèvent, hormis celle de Marine Le Pen qu'on vient d'entendre, parmi elles celle du patron du PS, Olivier Faure, qui évoque un devoir d'exemplarité, selon lui, pour préserver toute forme d'équité et que la justice puisse passer. Il est logique que dans un premier temps, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, démissionnent, et d'ajouter que s'ils sont disculpés par la justice, par la suite, eh bien, ils reviendront. Même son de cloche à droite, où le chef des députés LR, Olivier Marleix, estime que le maintien en fonction à l'Élysée d'Alexis Kohler serait une injure à l'institution judiciaire. Plus radical encore, la chef de file de députés LFI, Mathilde Panot, affirme que le protégé de Macron va devoir affronter sa hantise, rendre des comptes. Sauf que, pour le moment, de départ, on l'a entendu des deux hommes, tu l'as dit, Estelle, il n'en est pas question, puisqu'ils ont toujours le soutien d'Emmanuel Macron, mais aussi d'Elisabeth Elisabeth Borne. D'abord parce que Éric Dupond-Moretti n'est pas condamné et donc encore présumé innocent, tout comme Alexis Kohler d'ailleurs. En vigueur depuis le début des années 90, au plus fort des affaires politico-financières. La jurisprudence dite Bérégovoy-Balladur, qui voulait qu'un ministre mis en examen démissionne, n'est plus automatique sous Emmanuel Macron. Pour ces ministres qui ont déjà été mis en cause, on se souvient de François Bayrou, Nicolas Hulot ou encore François de Rugy, le président de la République a toujours agi au cas par cas.
Alors, doivent-ils quitter leur poste, Éric Dupond-Moretti et Alexis Kohler? C'est la question qu'on vous pose et que je vous pose, Emmanuel Dancourt.
Moi, je pense qu'ils doivent quitter leur poste. Effectivement, la loi ne nous y oblige pas. Il n'y a rien dans la loi qui oblige. Il y a une sorte de zone grise, d'ailleurs, à ce niveau-là. Mais c'est pas souvent que je suis d'accord avec Marine Le Pen.
Il n'y a pas du tout de zone grise dans la loi.
En l'occurrence,
bah non.
Disons qu'il y a, la loi, et il y a ce qui s'est fait que tu as rappelé, Rémi, dans les décennies passées. Mais on a quand même un président de la République qui, en mars 2017, dans un JT de David Pujadas, disait très expressément que lui, élu, les ministres mis en examen seraient démissionnés. Reprenant par là une phrase de 1995 de Jacques Chirac, qui lui aussi avait dit voilà, on fera démissionner les gens mis en examen. Donc tu as raison, Rémi, il n'y a pas encore de condamnation, mais il y a une mise en examen. Donc moi, ce qui me gêne en fait dans l'histoire, il y a deux choses. C'est l'incohérence d'Emmanuel Macron, qui fait bien un peu ce qu'il veut par rapport aux promesses qu'il nous a faites. Et puis il y a un problème d'éthique quand même. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans l'affaire, c'est la façon dont ça questionne et dont ça interroge nos institutions publiques et notamment la morale de nos institutions publiques.
Oui, puis Éric Dupond-Moretti est ministre de la Justice, c'est ça aussi qui pose problème, c'est aussi sa fonction, quoi.
C'est pas que ça, c'est aussi c'est une triangulation. On a Nicolas Sarkozy qui a été beaucoup plus souple lui sous sa présidence avec ce genre de choses. On a Nicolas Sarkozy qui est mis en cause dans les affaires que traite Dupond-Moretti. On a Emmanuel Macron dont on sait qu'il est quand même fortement influencé par le conseil de Nicolas Sarkozy. Donc il y a des choses sans doute pas très jolies là-dessous aussi.
Ça, c'est votre point de vue, mais est-ce que ça fait désordre quand même, Laurent Dandrieu, ces deux mises en examen, quoi? Encore une fois, là, on n'est pas.
Moi, je pense que vraiment.
Pas juste du soupçon, il y a une mise en examen. Quoi.
Ouais. Mais je pense qu'il faut quand même différencier les deux cas qui sont, à mon sens, pas similaires. Moi, je suis convaincu que dans la période actuelle, il est vraiment, l'urgence, c'est de réaffirmer et de revaloriser la présomption d'innocence.
Eh oui, bien sûr.
Et que, notamment dans ce contexte, on voit bien, on l'a vu avec les affrontements entre Sandrine Rousseau et Julien Bayou, il y a une tendance aujourd'hui à accuser les gens.
Mais Julien Bayou, il n'est pas mis en examen.
Non, mais il y a une tendance, c'est autre chose, mais il y a une tendance aujourd'hui à accuser les gens dont, par ailleurs, avec lesquels on est en conflit politique parce que c'est bien commode. Donc, je pense que la réaffirmation de la présomption d'innocence est capitale et moi, je suis très content qu'Alexis Kohler, pour lequel je n'ai aucune sympathie, reste en poste. Mais effectivement, le cas de Dupond-Moretti, c'est tout à fait différent. Il est ministre de la Justice. Il va être jugé là par la Cour de cassation qui va dire si ou non il sera renvoyé devant la Cour de justice, qui est composée d'ailleurs de magistrats issus de la Cour de cassation, c'est-à-dire des gens qui sont théoriquement, et pas théoriquement seulement, qui sont sous sa tutelle. Et ce qui va jouer évidemment dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, parce qu'on sait qu'en tant que ministre, il a eu des conflits avec les magistrats beaucoup n'ont pas été très contents de le voir arriver au ministère. Donc je pense qu'il y a effectivement là un cas typique de conflit d'intérêts. Après, moi j'écoutais Marine Le Pen, sa position peut se défendre, mais je suis quasiment certain que le jour où elle arrivera.
Ah, si ça lui tombe dessus à elle, c'est tout l'inverse. Elle a eu des affaires, d'ailleurs.
Exactement l'inverse.
Mais c'est là qu'on a un problème. Tu peux pas dire ce que tu as dit et dire dans la foulée, mais bien sûr.
Non, mais évidemment que ça lui tombera dessus, mais
sa
phrase. Il pivote les politiques.
Non,
moi, ce que je comprends
pas.
Non,
tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas d'un côté dire ça et de l'autre faire, mais bien sûr. Alors que tu sais, justement, que en fonction des politiques qui sont au pouvoir, quand ça leur tombe dessus, quand un de leurs ministres, un de leurs amis est mis en examen, à chaque fois ils disent « Ah, présomption d'innocence ». Et moi, plus ça va, plus j'ai envie de me ranger derrière le droit, rien que le droit. Parce que, véritablement, en ce moment, moi j'ai le sentiment dans tous les dossiers que la morale et l'émotion sont les deux piliers qui nous gouvernent. Et moi, l'émotion, j'ai toujours considéré que c'était l'ennemi de la raison. L'émotion, elle se nourrit. L'émotion, elle se nourrit de l'ignorance, très souvent. Donc, en fonction de qui est au pouvoir, on a effectivement tout entendu. Qui peut imaginer le général de Gaulle mis en examen? À l'arrivée, quand ça les touche personnellement, ils disent, ah ben non! Présomption d'innocence.
Question.
Moi, dans le cas de Dupond-Moretti, pourquoi le pouvoir judiciaire devrait être plus fort que le pouvoir exécutif?
Pourquoi la présomption
d'innocence? Il est mis en examen, Daniel.
Daniel.
J'ai compris. La mise en examen n'est pas une condamnation. Le droit, rien que le droit.
Non, mais ça veut dire qu'il y a matière à enquêter déjà.
Est-ce que tu as une balance? Est-ce que tu as une balance qui dit que les mises en examen finissent par être condamnées?
Non, mais tu peux
alors,
aussi
alors tant que tu ne me présentes pas la balance, moi je suis le droit, rien que le droit.
Question, pourquoi, je la pose à tous les deux, pourquoi la présomption d'innocence, en étant totalement respectée dans ces deux cas-là, empêcherait les ministres d'être suspendus de leur fonction le temps de l'enquête? Ils ne sont pas remplacés.
Alors il se passe quoi après?
Qui va gérer ces dossiers? C'est déjà
parce qu'une suspension de responsabilité, c'est une punition de fait.
Et puis le temps de la justice est très long.
On ne peut pas faire ça, Emma. De façon tout à fait rationnelle, on ne peut pas fouler aux pieds nos principes de droit.
Pour te répondre sur ta deuxième partie, je fais confiance à la justice, très bien, mais dans un autre cas qui est le cas de violences sexistes et sexuelles, il n'y a que 0,6% des plaintes.
Oui, mais tu ne peux pas ramener la vie entière à ça en permanence.
Non, mais je ne peux pas ramener en permanence.
Tu ne peux pas, Emmanuel, sans arrêt tout ramener à ça.
Non, mais tu dis, je fais confiance à la justice de manière générale.
Qui a dit ça?
À l'instant, tu l'as dit. Je fais confiance à la justice, j'ai envie de faire confiance à la justice. Mais tu vois bien que dans certains cas,
non, t'as pas compris. Le droit. Le droit, pas la justice. Je vois pas pourquoi je ferais plus confiance au pouvoir judiciaire qu'au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif. Nous avons trois pouvoirs. Je ne vois pas pourquoi le juge serait tout puissant et déciderait par une mise en examen la mise à mort momentanée,
même temporaire.
Temporaire.
Une suspension, c'est pas une mise à mort, Daniel.
Mais tu peux pas suspendre un ministre. Comment tu fais?
C'est une suspension.
C'est impossible, les mises
pourquoi
de la justice.
Le juge serait, par exemple, dans le cadre du Pont-Moretti. Dans le cadre du Pont-Moretti. On sait très bien qu'il y a un vieux litige entre l'avocat du Pont-Moretti et les juges. Qui me dit, moi, qu'il n'y a pas du zèle chez un juge? Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu, un juge qui fait du zèle. Ça s'est jamais vu, un juge qui en fait un petit peu trop sur un dossier parce qu'il a une affaire perso. Les juges, ils sont forcément tout blancs.
Le zèle,
en
il est de l'autre côté aussi. Hein. Le zèle, il est aussi de l'autre côté. Parce que Dupont-Moretti, si on vraiment s'arrête sur son cas à lui, il a aussi mené des enquêtes dont on pense qu'elles peuvent être une sorte de vengeance, etc. etc.
Bien, donc tant qu'il n'y a pas de condamnation, le droit, rien que le droit.
Alors, on est avec Luc, qui nous appelle de Pornichet. Bonjour Luc.
Oui, bonjour Estelle.
Et Luc voulait intervenir sur ce débat.
Ben oui, voilà, parce que tout simplement, hein, je veux dire, c'est complètement basique. Hein, un ministre mis en examen, c'est bien Emmanuel Macron qui l'a dit lors de son quinquennat précédent, un ministre doit démissionner. Point barre, quoi, je veux dire, c'est tout, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Ou alors, il se contredit complètement. Et ben après,
oui. C'est la première fois.
Ça amène à aux extrêmes, quoi, parce qu'il y en a ras-le-bol, on voit bien, les gens ne votent plus.
Et si après il est innocenté, t'en penses quoi, Luc, après?
S'il est innocenté, il a le droit de revenir, de reprendre des fonctions.
Mais en attendant, il est traîné dans la bouée. Pourquoi le juge aurait forcément raison et pourquoi le juge s'imposerait?
Il est mis en examen.
Oui, mais qui te dit que le juge a raison?
Ah ben d'accord, mais alors dans ces cas-là, même s'il est condamné, tu pourras dire, ça se trouve, c'est une erreur de justice.
Non, mais qui te dit que le juge, en mettant en examen, peut-être tel juge aurait statué sur une mise en examen, un autre non?
Oui, mais alors attends, tu peux pas, Daniel, je suis désolé, tu peux pas dire, la présomption d'innocence, on fait attention au pouvoir des juges et machin, c'est-à-dire que, soit à un moment tu fais une loi, soit la loi tu dis, on ministre doit démissionner s'il y a condamnation.
Alors fais une loi alors. Comme alors, tu viens de le dire, alors. Il n'y a pas de loi.
Daniel, non,
parce que
Donc,
il n'y a pas de loi.
Oui, sauf que Emmanuel Macron. Attendez, juste Emmanuel Macron a dit effectivement un ministre mis en examen.
Non, il a dit qu'il fasse voter la loi.
Daniel, c'est déjà arrivé. C'est sous le gouvernement Bérégovois. Bernard Tapie avait été sorti du gouvernement. Absolument. Et quand il a été blanchi, il a réintégré le gouvernement. Ça s'est déjà fait.
Et même ministre ou citoyen, la loi elle est la même pour tous. Tu ne peux pas décider pour des ministres que eux, quand ils seront mis en examen, seront obligés de démissionner. Et pour un citoyen lambda, c'est pas le cas.
Je suis désolé, mais ils représentent le peuple. Donc en fait, un ministre, c'est pas pareil.
Oui, mais les justiciables sont. Oui, mais
que ce soit les députés ou les ministres, pardon, c'est autre chose que quelqu'un qui bosse dans une société.
Le cadre juridique, ça serait s'il est mis en examen dans une affaire qui n'a rien à voir avec son travail, le patron doit le virer.
Non, mais je pense que le cadre de l'entreprise se met en congé la plupart du temps. Oui. Il se met un peu au vert, tu vois.
En entreprise,
s'il est mis en examen, Daniel, je pense que tu vas te mettre au vert. Tu vas prendre tes congés, tu vois.
Sur le revirement d'Emmanuel Macron, Dieu sait si j'ai tendance à.
Donc moi, j'ai été mis en examen, on va virer ici.
Dieu sait si je suis critique d'habitude sur ces revirements, mais là, je pense que tout simplement, s'il a changé d'opinion, c'est parce que le contexte a changé. Et qu'à l'époque où il a fait cette fameuse déclaration, il n'y avait pas une telle pression sur la présomption d'innocence. Et je pense que le contexte est vraiment différent.
Alors, moi, j'ai été mis en examen.
Pourquoi?
Et je crois que je le suis encore.
Ah bon, pourquoi?
Pour diffamation.
Ah oui, mais d'accord.
Mais alors, est-ce que le patron m'a viré? J'ai gagné tous mes procès.
Ok, Daniel, mais t'es
donc le temps où je suis mis en examen.
Parce que t'es pas ministre.
Ah ben non, mais je sais pas. Tout à l'heure, vous m'avez dit que le mis en examen dans une entreprise, un cadre, il doit se barrer.
Daniel, ça dépend pourquoi.
Ah, pour diffamation, un journaliste.
Mais on ne peut pas faire une politique du ça dépend pourquoi.
Mais si, ça s'appelle la nuance.
Oui.
Il y a des cas précis.
Si typiquement un journaliste qui est mis en examen pour diffamation pourrait dire ah bah sa crédibilité du journaliste est en cause, on va le suspendre. Et ben voilà. En l'occurrence, ça aurait été absurde.
Alors qu'à l'arrivée, en plus on peut attaquer pour tout et pour rien.
Oui.
À l'arrivée, je suis innocenté et je gagne. Qu'est-ce qui se passe?
Bah tant mieux pour toi.
Ben oui.
Donc on me met à l'écart pendant parce que ça dure super longtemps.
Mais la preuve,
moi ça a duré 3-4 ans.
La preuve, on l'a pas fait.
Oui, mais pourquoi on le ferait pour le ministre?
Deux secondes, je voudrais juste qu'on prenne.
On le ferait pour le ministre.
Taisez-vous. Parce qu'il est ministre. Je voudrais juste qu'on prenne Jean-Philippe Derosier, c'est notre invité sur ce débat. Il est constitutionnaliste et professeur de droit public à l'université de Lille. Merci Jean-Philippe Derosier d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous de m'avoir invité, de m'associer à ce débat qui est très animé.
Mais tout à fait. Vous auriez pu dire intéressant également, mais enfin écoutez.
Un débat animé qui n'est pas intéressant, ça n'existe pas.
Très bien, Jean-Philippe. Est-ce que vous trouveriez normal, alors on va dissocier les deux cas, on va commencer avec celui d'Éric Dupond-Moretti qui est ministre de la Justice et qui est mis en examen. Est-ce qu'aujourd'hui sa position est tenable et est-ce qu'il doit démissionner même si ce matin il a affirmé le contraire?
Alors ça dépend, si vous posez la question au juriste et si derrière, est-ce qu'il doit démissionner, c'est une question de droit, non, il ne doit pas démissionner. Le droit ne le lui impose pas. Maintenant, il est membre du gouvernement, il est même garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est pas n'importe quelle fonction, notamment lorsque l'on est poursuivi par la justice. Et lorsque l'on est membre du gouvernement, on est responsable, on doit avoir un sens de la responsabilité. On endosse également une fonction, distincte de l'individu qu'il exerce. Et cette fonction mérite, je crois, au sein d'une démocratie et de la République qui est la nôtre, un certain respect, une dignité même, et d'exercer cette fonction avec toute la dignité requise, qui suppose en effet qu'on n'entache pas la dite fonction par des poursuites judiciaires. Et j'entendais l'un d'entre vous dire à l'instant, moi-même je suis mis en examen pour des affaires de diffamation. Alors, la diffamation c'est un petit peu particulier parce que la mise en examen est quasi systématique à chaque fois. Donc
d'accord.
C'est vraiment un cas particulier de la procédure pénale. Mais en effet, lorsque une personne, je vais dire lambda, avec tout respect que je dois au journalisme, mais qui effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, n'est pas ministre, ce n'est pas la même chose que lorsque l'on est l'un des 20, 30, 40 ministres qui exercent une des fonctions les plus importantes de notre État et de notre État de droit. Et donc,
c'est-à-dire que si Éric Dupond-Moretti avait été ministre du Tourisme, par exemple, c'était moins grave, quoi.
Non, je pense pas. Je pense pas parce que je pense que n'importe quel membre du gouvernement exerce effectivement une fonction gouvernementale et lorsqu'il est poursuivi par la justice, va contaminer la fonction gouvernementale du seul fait de cette mise en examen ou des poursuites judiciaires qui sont engagées contre lui. Donc, ministre de la Justice ou ministre du Tourisme, c'est tout aussi grave. La différence qu'il y a, notamment lorsque l'on exerce des fonctions gouvernementales de la justice ou de l'intérieur, c'est que on est poursuivi ou on fait l'objet d'enquêtes par des personnes dont on est quelque part le chef de l'administration.
Mais oui.
Et là, effectivement, c'est un problème supérieur, si j'ose dire.
Donc on crée une jurisprudence, monsieur Desrosiers, alors?
C'est pas une jurisprudence.
Bah, on est obligé.
Ça arrive pas tous les matins.
On est obligé de créer un cadre. Moi, j'entends ce que vous dites et je suis plutôt enclin à être de votre avis. Mais il faut créer un cadre qui
mais tu reviens
en quelque sorte
d'avant.
Va institutionnaliser qu'un ministre, quand il est mis en examen, le ministre
doit
ou
démissionner.
Quelqu'un qui nous gouverne doit démissionner ou être mis en retrait. Et il faudra juste savoir quelles sont les fonctions. Est-ce qu'un leader politique d'un parti qui n'est pas au gouvernement, c'est pareil ou pas? Il va falloir qu'on sache quel est le cadre et quels sont les cas pour lesquels ça doit exister.
Tu fais député et ministre.
Non, mais ce que dit M. Desrosiers s'entend, véritablement.
Bah, bien sûr.
Tu es ministre, donc. Mais alors, il faut définir un cadre.
Je suis d'accord.
Sauf qu'en créant un tel cadre, le risque, c'est quoi? C'est une remise en cause possible de la séparation des pouvoirs.
Et c'est ce que je disais en ouverture du débat.
Et donc, effectivement, quand on accepte des fonctions gouvernementales, on s'installe sur un siège éjectable. sur un siège éjectable, d'abord pour des raisons politiques, parce que on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça se termine.
Et ça peut se terminer mal,
comme ça peut se terminer vite, ça peut se terminer bien, ou ça peut se terminer tard, bien
c'est
ou
ça,
mal.
Ou mal.
Dans tout état de cause, c'est un bail relativement précaire. Et en effet, c'est généralement assez valorisant, c'est une fonction qui est assez enviée par ceux qui les exercent et même par ceux qui ne les exercent pas. Et il faut donc en accepter à la fois les intérêts, les atouts, mais également les conséquences. Et parmi ces conséquences, il y a aussi effectivement le risque d'être davantage exposé de pouvoir faire l'objet de poursuites du fait de
leur fonction.
Plainte ou voilà. Mais il ne faut pas non plus verser dans un excès. Là, on arrive à un cas où les faits sont clairement identifiés. Il y a eu plusieurs débats. Il y a eu une enquête qui a été approfondie. Et il y a une traduction, c'est-à-dire c'est la première fois dans toute l'histoire de la République, d'un ministre en exercice devant la Cour de justice de la République. Et là, effectivement, ça pose problème. Est-ce qu'il faut institutionnaliser ? Est-ce qu'il faut légiférer sur ça ? Je n'en suis pas certain. Je pense qu'il faudra en appeler tout simplement au sens des responsabilités, au sens
faire du cas par cas.
Et non pas faire du cas par cas, mais appliquer cette pratique qui existe depuis bien plus longtemps, en réalité, que ce que vous avez dit. Parce qu'effectivement, le premier cas le plus emblématique, c'est Bernard Tapie, mais elle remonte même à Jacques Chaban-Delmas en 1972, où c'était un ministre secrétaire d'État qui avait été définitivement condamné et prié de quitter ses fonctions.
Merci en tout cas, Jean-Philippe Derosier, d'avoir été avec nous, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille. On va terminer avec Jacques, qui nous appelle de Fléac-sur-Saône, en Charente-Maritime. Bonjour Jacques.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Jacques, ils doivent démissionner, Alexis Kohler et Éric Dupond-Moretti ?
Certainement pas. Mais ils doivent rendre compte. Si personne doit démissionner, c'est la première ministre. C'est pas tard, c'est tout. Voilà. Parce qu'elle est devenue son avocat, c'est tout. C'est elle qui doit la suspendre. C'est elle la patronne.
Elle y est pour rien là-dedans, dans ce qu'on fait Alexis Kohler.
Mais il suffit. Éric
Dupond-Moretti.
Alexis Kohler, il dépend de l'Élysée, lui. Lui, c'est autre chose.
Oui.
Il dépend de Macron.
Voilà, alors, il faut que Macron démissionne.
Le problème, c'est l'émotion, encore une fois. C'est quand on est adversaire politique, on dit n'importe quoi.
Mais
si, il y a d'émotion. Quand tu dis Macron doit démissionner, arrête.
Daniel, laisse-le finir. Allez-y, Jacques.
Monsieur Dupond-Moretti a renvoyé un magistrat devant le CSM à sa demande. C'est lui.
Oui.
Le magistrat est allé s'expliquer. Il a donc déposé une plainte pour confier. Il a été jugé, il a été blanchi. Aujourd'hui, il est renvoyé. Mais lui, il accepte pas. Et je vais vous dire un truc. Il a été renvoyé par l'ancien Premier ministre.
On fait quoi, Jacques ?
C'est une question d'éthique. Vous ne pouvez pas demander au ministre de faire régler ses problèmes par le Premier ministre. Première ministre, elle doit dire, écoutez, moi je ne suis pas là pour régler vos problèmes. Elle a nommé un ministre.
C'est ce qu'elle a fait, elle l'a nommé et pour l'instant elle le conforte dans
ses
fonctions.
On le savait que ça allait arriver. Déjà quand il a été nommé avant, il y a quelques années, il avait déjà toutes ses casseroles aux fesses, on savait que ça allait arriver. Voilà, on y est.
Merci Jacques en tout cas d'avoir été avec nous. Alors ça c'est intéressant, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce que lorsqu'ils sont mis en examen, les politiques doivent quitter leur poste, Rémi Barré ?
Ce n'est pas un verdict judiciaire, mais un verdict populaire en tout cas de ceux qui votent sur les réseaux sociaux. Et c'est oui à la démission, aux démissions à 83%.
Donc c'est une très large majorité. D'Elisabeth Borne qui devrait en fait donner une aide aux Français qui aident les Ukrainiens. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 32, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h en compagnie de Rémi Barré, Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Laurent Dandrieu. Avec vous également au 32-16 pour débattre autour de l'aide du jour. Et cette aide, c'est celle annoncée par Elisabeth Borne pour les Français qui accueillent des réfugiés ukrainiens. Une aide qui devrait être effective d'ici fin novembre et qui pourrait atteindre, Rémi, les 200 euros par mois.
Exactement, c'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne hier devant l'Assemblée nationale. Cette aide versée, donc tu l'as dit, à partir de fin novembre. Et si la première première ministre n'a pas donné de montant précis lors de son discours devant les députés hier, il y a quand même une fourchette estimée, puisque début juillet, dans le journal Le Monde, le préfet Joseph Zimet, qui pilote au ministère de l'Intérieur la cellule interministérielle de crise sur l'accueil des Ukrainiens, avait affirmé que cette aide était à l'étude et qu'elle devait s'élever à 150, voire 200 euros durant quelques mois. Pourquoi ? Pour éviter que cet accueil ne s'effondre. Ah. Car selon lui, avoir un ménage ukrainien chez soi durant plusieurs mois, cela engendre des charges financières et peut entraîner une forme de lassitude. D'ailleurs, dans la presse, il y avait eu pas mal de témoignages de familles d'accueil d'Ukrainiens qui disaient qu'elles étaient assez fatiguées, éprouvées, que certaines ne s'imaginaient pas que c'était une telle charge que d'accueillir toute une famille chez soi. À l'heure actuelle, plus de 100 000 Ukrainiens, dont 19 000 enfants scolarisés, ont été accueillis en France.
Alors cette aide, c'est une bonne ou une mauvaise idée, Laurent Dandrieux ?
Alors moi, ça m'énerve pour deux raisons. La première, c'est que c'est très français. L'État se mêle de tout, y compris des élans de générosité privée. Donc il faut qu'on mette de la bureaucratie et du financement public dans tout ça, alors qu'à la base, c'est effectivement des gens qui ont décidé de faire fonctionner leur cœur pour aider des gens dans le besoin. La lassitude financière, elle existe, mais la lassitude, elle n'est pas que financière. Hein. C'est aussi lourd d'avoir des inconnus chez vous dont il faut s'occuper, qu'il faut aider dans leur démarche,
et qui
n'aident pas toujours, et qui sont là à peser sur votre vie privée. La deuxième raison pour laquelle ça m'énerve, c'est parce que le mot réfugié, c'est une petite lanterne magique qui tout à coup fait qu'on s'occupe de vous. Et moi, j'aimerais bien que l'État soit aussi généreux pour s'occuper des SDF bien de chez nous, quoi. Moi, j'en avais un dans mon quartier qui était là depuis des années, très gentil.
Il y a des aides aussi pour les SDF.
Sauf qu'il est mort dans la rue. Et qu'on sait très bien que tous les hivers, on manque de place pour accueillir, pour héberger les SDF quand il fait trop froid. Et alors là, tout le monde s'en fout parce qu'ils sont ni ukrainiens, ni éthiopiens, ni syriens. Voilà.
Il n'y a pas d'aide pour les Syriens. Moi, c'est ça qui me gêne un peu, justement. C'est qu'il y a des aides pour les Ukrainiens, mais enfin, pour les autres, bon, voilà, il n'y a pas d'aide.
Il y a des aides.
En tout cas, c'est pas spécifié comme ça. Si tu accueilles un Syrien, je suis pas sûr que t'es 200 euros.
Le fameux village breton qui accueille des réfugiés, Kalak, et c'est pas des SDF. Vient de chez nous. Hein.
Mais alors le bien de chez nous,
mais c'est le bien de chez nous qui me dit, qui me gêne un peu.
C'est hyper inaudible, Laurent.
Pour toi, Emmanuel, mais il n'est pas inaudible vis-à-vis des Français moyens. Écoute les conversations dans les bistrots.
Tu trouves pas ça inaudible? Aider les Ukrainiens, c'est aider l'Europe. En réalité, si on n'aide pas les Ukrainiens, reste centré sur notre petit pays avec nos frontières et qu'on n'aide pas les Ukrainiens, aider la France, c'est aussi aider l'Europe. Comment?
Aider l'Ukraine.
Aider l'Ukraine,
tout à fait. Il a le droit de se sentir plus français
qu'européen. D'accord. Laisse-les, voilà.
Moi, je trouve que c'est une bonne chose, contrairement à toi. Cet argent, je le trouve parce que je le vois en action dans mon village, dont j'ai déjà raconté ici qu'on a reçu deux familles, une reçue par la mairie, qui est repartie depuis à Kiev, cette famille-là, et une qui a décidé de s'installer chez nous. Chez nous, dans notre village, ouais.
Ah
ouais, il s'installe, la maman avec les trois enfants, le papa a un cancer, donc il est bloqué à Kiev, malheureusement. Donc c'est quelque chose de très douloureux. Et cette famille qui les a reçus, donc quand même une maman et ses trois enfants qui ont été reçus dans une maison pas très grande, on a tous donné de générosité du village, on a tous apporter des paniers de courses, du papier toilette, des pâtes, du riz, du sucre, etc.
Mais ça s'est bien passé.
C'est une famille pas très riche et ça n'a pas suffi. Alors évidemment que les 200 euros par mois, ils vont être les bienvenus pour aider toutes ces familles qui sont souvent des familles pas riches qu'on reçut.
Oui, mais alors après, tu vas voir, au départ, c'était de la solidarité, de l'entraide, du partage, et après, ça peut devenir une initiative mercantile. Moi, ça me gêne.
Non, ça ne devient pas une initiative mercantile puisque c'est d'abord ceux qui reçoivent actuellement et qui sont depuis des mois avec la chose.
Ils n'ont jamais
fait pour ça. Ça existe déjà.
Et on va se monter un business ensemble de réfugiés pour toutes les aides.
Vous savez que c'est géré par les associations locales qui sont vraiment sur le terrain, qui connaissent bien le tissu local.
Mais donc c'est pas elles qui vont gérer tes 200 euros, justement.
Justement, qu'ils peuvent déterminer où sont les familles d'accueil et dire on va pouvoir vous aider.
Parce qu'aujourd'hui, justement, c'est les associations qui gèrent et qui gèrent ça, franchement, extrêmement bien. Et on peut dire que les Ukrainiens sont très bien accueillis. Et tu parlais toi-même de ton village, Emmanuel, et ça se passe super bien. Et là, tout d'un coup, tu vas pouvoir réclamer une aide. Alors, personne ne saura qui t'aide.
Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont pas la réclamer.
Des Ukrainiens. Moi, je trouve ça, je trouve ça un peu touchy.
Non, alors qu'aujourd'hui, le système marche très bien parce que t'accueilles personne chez toi. Tu sais pas combien ça coûte. Tu rigoles ou quoi?
Ça coûte, le système marche très bien pour les autres.
C'est ça. Ça coûte une blinde de recevoir des familles.
Une prime énergétique.
politique.
Tu sais quoi, la famille dans mon village, ils sont policiers. Je peux t'assurer qu'ils gagnent pas grand chose. Et malgré tout, ils accueillent une femme et ses trois enfants. Ils leur payent absolument tout. Et nous, on a pu donner ce qu'on a pu donner, mais franchement, je suis sûr que ça a pas suffi et qu'ils seront soulagés de recevoir 200 balles pour quatre personnes accueillies. C'est pas beaucoup quand même.
Non, mais ça, je suis d'accord. Mais pour l'instant, en tout cas. Tout ça se faisait sur une démarche.
Oui, mais avec des vrais problèmes d'une démarche, j'ai compris. Mais pourquoi on les aiderait pas pour une fois qu'on laisse pas que les assos se mettre en place par rapport à ça? Faites-vous, si vous voulez gagner de l'argent, accueillez des Ukrainiens. Je vous attends.
Je pense que c'était une blague, Emmanuel. Calme-toi. Oui, je pense qu'on va pas s'enrichir avec les 200 balles pour mettre une famille d'Ukrainiens sur le balcon des
fêtes. Au prix du panier de course.
Il est bien ton balcon ou pas?
Pas mal.
Bon, c'est un panier de course.
En introduction, j'aimerais bien savoir ce qui peut te choquer dans la phrase de Laurent, bien de chez nous. Cette phrase, c'est cette réflexion qui consiste à avoir honte d'être français ou de considérer.
Attends, bien de chez nous, j'ai pas dit ça. Ça y est, tu commences déjà à transformer. Oui, bien de chez nous.
Alors je te pose la question pour rien transformer.
Aucune honte à être française. Moi, je suis 100% française, 100% suisse, et j'ai des origines en Espagne, en Allemagne, un peu partout en Europe. Mais bien de chez nous, ça veut dire qu'on s'occupe que de nos fesses. Et c'est pas
ce que je disais. Ce que je disais,
il a dit prioritairement.
Ce que je disais, c'est qu'on s'occupe prioritairement des étrangers.
Non, c'est pas vrai.
Il veut s'occuper prioritairement de ses fesses. Il a le droit.
C'est pas que c'est mal connaître le traitement qu'on fait au SDF. Parce qu'il y a des places dans les foyers et on a du mal à les emmener là-bas.
Mais il
n'y
a rien de choquant dans ce que dit Laurent.
Daniel, ton avis sur le sujet.
Honnêtement, j'ai pas d'avis tranché là-dessus.
Merci Daniel.
Derrière cette histoire de prime à tout faire, qui vaudrait en gros à récompenser quelqu'un qui serait un bon citoyen. Ah non, on n'a plus le droit de dire un bon citoyen parce qu'on n'a pas le droit de dire qui est bon ou pas bon citoyen. Donc je ne sais pas à quoi vaudrait cette prime. Il y a pas de bons citoyens.
Il y a plus de citoyens. On est tous frères.
Voilà. Donc je ne sais pas. Je comprends pas trop l'idée d'une prime à tout faire.
Si c'est simple, c'est que ça te coûte de l'argent d'accueillir des réfugiés ukrainiens.
Et pourquoi
donc on va
parce
te donner
que ça a été dit. Je ne vais pas le répéter. Mais pourquoi pour l'ukrainien oui et puis pour une autre forme de réfugiés non.
Parce que c'est un choix politique.
C'est un choix politique. Oui, non, mais la France.
Bah moi, ça me gêne.
Un choix de l'État français, parmi d'autres.
Mais Rémi a raison. Il faut entendre. Moi quand je ne sais pas trop, j'aime entendre des arguments forts. Rémi a un argument fort. C'est un choix politique. On accepte ce choix politique. Pour l'Ukrainien, il y a une prime. Ceux qui veulent prendre la prime prennent la prime. Et puis pour les autres, non. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'avoir un avis tranché derrière pour dire l'Ukrainien non, le Syrien oui, machin. Il y a un choix qui a été fait.
Encore une fois. Non, mais face à ce qui s'est passé.
Visiblement, ça a été dit.
Mais face à la violence de ce qui s'est passé en Ukraine, la France, parmi d'autres pays européens, a fait le choix d'accueillir en masse des réfugiés ukrainiens. Ils ne sont pas venus comme ça par bus, par hasard, chacun de leur côté. On les a accueillis en masse, on les a fait venir en France. Donc c'est un choix de l'État français. Un certain nombre de familles françaises, à l'appel de l'État français d'ailleurs, ont fait le choix d'accueillir ces réfugiés chez eux. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation financière qui est délicate pour certains. C'est à l'État français d'assumer.
Alors Thierno nous a appelé au 3216 depuis Ezine, banlieue de Bordeaux. Bonjour Thierno.
Oui, bonjour Estelle.
Et merci d'être avec nous sur RMC. Thierno, c'est une bonne nouvelle cette aide de 200 euros pour accueillir des réfugiés ukrainiens?
Quand on fait de la solidarité, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'elle est juste cette nouvelle? Est-ce qu'elle est juste? Moi je pense qu'en fait, en plus de pas être une idée, je suis pas contre l'idée, il y a pas de problème, mais moi c'est la justesse de la chose que je trouve pas juste.
C'est-à-dire
en fait l'Ukraine c'est aux portes de nos frontières, il y a aucun problème pour ça, mais il y a des familles françaises formidables qui se dévouent pour les accueillir, il y a aucun problème. Il y a un problème de l'État qui se mêle dedans parce que c'est une politique, enfin l'Ukraine est à côté, quand il y a un problème on est beaucoup plus proche. Moi je dis juste quid aux autres réfugiés politiques de guerre. Je ne confonds pas, je ne dis pas le sujet qui vient de n'importe où, mais des pays en guerre, qui sont sur notre territoire, pour eux, on fait quoi? On ne fait rien.
Bah c'est peut-être le début de quelque chose, Thierno.
Moi, je vois des gens qui accueillent des réfugiés syriens, des réfugiés
j'en connais aussi,
mais qui triment aussi pour les aider. Ils n'ont pas grand-chose.
Et eux, ils n'auront pas d'aide.
Il y a des aides qui s'organisent tout ça.
Ils sont peut-être moins nombreux que si ils accueillent des réfugiés ukrainiens, quand même.
Oui, mais
il n'y a pas eu un tel élan de solidarité.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais moi, je pense que l'État se déresponsabilise un peu et nous fout la patate. Enfin, je vais dire, ils font une politique, ils accueillent beaucoup de monde en masse, ils emmènent des bus. À ce moment-là, il faut organiser les choses. Il faut mettre de l'argent il faut bien le mettre à ce moment-là. Il faut mettre les moyens pour les accueillir dignement.
C'est ça, ils ont qu'à. Et en fait, ce que vous dites, voilà. C'est qu'ils peuvent aussi créer des, par exemple, des centres d'hébergement, et des structures sûr. D'accueil.
Je crois qu'on et a été sûr. Un petit peu pris de vitesse quand même par la guerre, hein, Thierno, si je peux me permettre.
Ça, on est d'accord. Mais aujourd'hui, plutôt que de balancer comme ça des chèques, etc., tu pourrais aussi imaginer.
Centre d'hébergement.
Non, mais en fait, là, tu auras toujours des réfugiés qui viennent en France, que ce soit les Ukrainiens, les Syriens. Il me semble qu'il y aura toujours des pays en difficulté.
Il me semble que le budget de la gestion des demandeurs d'asile et tout ça est déjà. Explose de partout et qu'on a du mal à subvenir. Donc, on n'est pas non plus dans une situation financière extrêmement brillante oui. où on peut.
Peut-être que si tu crées des centres d'accueil dignes de ce nom, on ne serait pas dans cette situation où tu as énormément de réfugiés dans la rue qui sont livrés eux-mêmes.
C'est aussi une situation qui est créée par le fait qu'on manque de moyens financiers parce qu'on n'est pas dans un pays qui croule sous l'argent.
Alors, si tu ne croules pas sous l'argent, pourquoi tu donnes des aides encore?
Parce que ça coûte beaucoup moins cher que de bâtir des centres d'hébergement.
Mais avant, il n'y avait pas d'aide et ça marchait.
Et tu peux peut-être mettre une limite aussi à l'accueil à un moment si tu n'as pas les moyens aussi.
Ouais. Ça marchait aussi, pas. La preuve, il y a
le droit aussi de poser la question du choix politique de l'accueil sans raison.
Emmanuel, ça peut permettre, mais c'est pas 100 euros qui va t'enlever ta fatigue.
Non, mais ça peut éreinter au niveau financier. Ça peut permettre à des familles de continuer d'accueillir des réfugiés. C'est 200 euros, même si c'est pas énorme, c'est déjà ça. C'est un panier, quoi. C'est une fois aux courses. Ça peut leur permettre de continuer pendant quelques semaines encore, en attendant qu'éventuellement ça se calme un peu là-bas, quoi.
Ce qui est marrant, c'est que quand on dit qu'il faut, si vous proposez, par exemple, comme l'a fait le gouvernement britannique, de baisser les impôts, on vous dit, ah, mais comment vous financez? Par contre, quand vous dites, je vais donner des subventions, la question du financement, elle se pose plus. C'est l'argent magique, quoi.
Oui, on a totalement oublié comment on allait financer. En tout cas, là, pour l'instant, on dit 200 euros, mais le montant, il n'a pas encore été fixé. Donc, on ne sait pas si ce sera aux alentours de 200, est-ce que ce sera, et on ne sait même pas si c'est 200 par famille, 200 par personne. Enfin, c'est toujours un petit peu fou. Ça doit arriver fin novembre. Ça a été annoncé comme d'habitude avec tambour et trompette, mais enfin on ne sait pas ce qu'il y aura dedans, donc c'est quand même un petit peu gênant, mais enfin ça devrait arriver quand même d'ici quelques jours. Dans un instant on sera avec Anthony Morel, on parlera des matériaux de construction du futur, et puis à 13h on vous posera cette question: pour ou contre la légalisation du cannabis? Des maires de tous bords réclament cette légalisation pour éradiquer la violence et les trafics. On vous attend nombreux sur ce sujet au 32-16, ce sera à 13h, à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est midi 49, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, avec vous, on s'intéresse aujourd'hui aux maisons et aux immeubles du futur, et plus particulièrement aux matériaux de construction. Alors en ce moment, le mot-clé, c'est bien sûr sobriété. Comment construire plus en polluant moins, avec des innovations parfois assez étonnantes que vous allez nous détailler?
Oui, parce qu'on a une vraie contradiction, c'est-à-dire qu'on a une pénurie de logements en France, c'est ce qui fait que les prix explosent, mais effectivement, la sobriété, c'est pour tout le monde, et la construction, c'est l'un des secteurs qui pollue le plus. C'est un des gros sujets en ce moment, la mondiale du bâtiment, qui se tient en ce moment d'ailleurs. Et donc, il y a plein d'innovations autour de ce qu'on appelle, par exemple, les bétons verts. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, peut-être que votre future maison sera fabriquée à partir d'algues, par exemple. Voilà. Alors, ça veut pas dire qu'il y aura du varech qui tombe du plafond. Hein. C'est pas ça exactement. Non.
En Bretagne, on en a un peu en ce moment.
Oui, c'est vrai. Bah, vous pourrez le récupérer éventuellement pour faire du ciment. Alors, c'est une start-up américaine qui s'appelle Prometheus. En gros, ils ont intégré dans le ciment des algues microscopiques qui lui donnent des propriétés absolument dingues. Donc, c'est aussi résistant que du béton traditionnel.
Chouette.
Mais vous allez polluer 90% moins, 90% d'émissions de CO2 en moins quand on fabrique ce béton. C'est un exemple
parmi d'autres. C'est cher ou pas?
Ça va être, alors pour l'instant c'est en phase de test, mais ce sera probablement un peu plus cher que du béton normal, c'est toujours la même chose. Alors vous avez du béton à base de chanvre, du béton à base de déchets industriels, on va parler du cannabis.
À base de chanvre,
de chanvre. On se fume pas,
tu fumes pas le béton, c'est vraiment déconseillé pour le coup.
Maintenant qu'on mange, c'est mort.
J'ai fumé les murs, j'ai fumé la fenêtre déjà.
Non mais ça peut avoir double usage, c'est pas mal. Et alors sinon, vous avez même maintenant des bétons à valeur de pollution, ce qui est quand même pas mal, c'est-à-dire que le mur de la maison va être capable, au contact du soleil, de transformer les éléments polluants, donc les composés volatiles, etc., qui se trouvent dans l'air, en éléments inoffensifs.
Ça, c'est vrai, ça, c'est pas bidon. Ça, c'est...
Non, c'est bon. Alors,
pour j'espère qu'ils vont pas avaler ma voiture diesel.
La ville de Mexico, c'est embêtant, effectivement. Non, la ville de Mexico, par exemple, teste ça depuis des années, et ça fonctionne assez bien.
Ah, Mexico, à pollution.
Justement, c'est pour ça que ça a été installé là-bas.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre de révolutionnaire?
Alors, par exemple, des murs auto-réparants. Ça, c'est pas mal. Auto-cicatrisants. Comme Wolverine, c'est le héros des X-Men qui se cicatrise tout seul. Et ben là, alors c'est des chercheurs de l'université de Delft, aux Pays-Bas, qui travaillent là-dessus. Ils ont mis au point un béton qui incorpore des petites capsules avec à l'intérieur des bactéries dormantes. Des bactéries inoffensives, je vous rassure.
C'est écolo, ça.
Alors, bon, écolo, oui, c'est des bactéries. Alors, oui. J'ai eu assez naturel, mais enfin bon, voilà, c'est des bactéries. Et en fait, ces petites bactéries, lorsqu'il y a une fissure et au contact de l'humidité, elles vont se réveiller, elles vont proliférer, elles vont remplir en fait la fissure en fabriquant du calcaire. Et donc, en gros, cette fissure, elle va fabriquer. Eh ben oui, mais
c'est génial.
C'est absolument dingue parce que vous avez le mur qui va se réparer tout seul. Mur, je parle de mur, mais c'est aussi pour les routes, par exemple, pour
les trottoirs.
Exactement, ça peut. Le potentiel est absolument dingue. Alors là, c'est pareil, c'est encore en phase de recherche. Mais ça fait partie de cette gamme de super pouvoirs qu'on pourrait donner au béton et aux matériaux de construction d'une manière générale.
On n'aurait plus de nid de poule en fait.
Bah exactement, ils pourront se résorber tout seuls.
Ça c'est chouette.
Ah, enfin, je veux ça, pour les motards,
ça pour les motards c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis pour lutter contre les résidents indélicats dans les grandes villes, on parle de murs un peu spéciaux, des murs anti-urine.
Des murs pipi-proof, voilà. On appelle le waterproof. Non, mais c'est très sérieux. C'est un vrai sujet aussi dans plein de grandes villes. Et c'est à San Francisco ou encore à Hambourg qu'ils ont testé ça. À Hambourg, il y a de la bière, donc forcément les gens après ils font pipi et pas forcément là où il faut. Et donc ils ont mis au point un revêtement ultra hydrophobe. Et en gros le principe c'est l'arroseur arrosé, quoi.
C'est incroyable. On dirait une pub pour les couches.
Mais comment ça, le pipi éclabousse plus fort.
Exactement. Ouais. Bah, ça sert que ça revient. C'est vraiment
ça revient sur toi
pour que ça revienne
ça
sur
bondit.
Toi. C'est retour à l'envoyeur.
Génial.
Ce qui est plutôt une bonne idée. En gros, tu te fais prendre une fois.
Après, le type pipi sera pas sur le mur, mais à côté. C'est pareil.
Alors éventuellement après. Mais enfin, en tout cas, pour ta maison à toi.
La première fois, ça te fait bizarre.
Oui, mais la façade de ta maison, t'as pas envie qu'on fasse pipi sur ta façade à toi. Bah tu l'équipes. Et puis bah normalement, le gars.
La plupart des gens qui font ça, ils sont tellement bourrés, ils se font même pipi dessus sans pas compte.
Bah c'est ouais, bah tant pis pour eux. Mais il y a un côté un peu vengeance. Oui, désolé, c'est pas forcément la bonne heure pour parler de ça, mais enfin voilà, je trouvais ça assez rigolo. Quoi.
Mais oui, bien sûr. On parle de quoi demain, Anthony?
Demain, alors je vais vous présenter demain un soutien-gorge incroyable, soutien-gorge pour dépister le cancer du sein. C'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui travaille là-dessus.
Mais je sais,
c'est un outil de dépistage. Absolument. On va tout savoir. Un outil de dépistage absolument dingue et c'est pas le seul. Je vous parlerai aussi d'un truc dingue qui s'appelle la radiothérapie flash dans la lutte contre le cancer, qui est une innovation française absolument révolutionnaire.
Et parce que là, on est bien sûr en octobre, et octobre, c'est octobre rose. Évidemment, et c'est très, très important. Merci beaucoup, Anthony Morel. Dans un instant, on parlera de ces maires de tous bords politiques qui réclament la légalisation du cannabis pour éradiquer la violence et les trafics. Pour ou contre cette légalisation, vous êtes en nombre au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.